Bienvenue dans notre podcast sur l'Expo 58. Dans cet épisode, nous vous ramenons à l'année 1958, à une époque où un journal coûtait 2 francs, où la NASA a vu le jour et où le hula hoop en plastique a conquis le monde. Imaginez. Nous sommes en 1958. Vous êtes un jeune homme de Liège et vous cherchez un emploi en tant que cuisinier. Malheureusement, il n'y a pas de travail disponible dans votre ville. Que faites-vous alors? Naturellement, vous vous dirigez vers Bruxelles, car c'est là que se tient l'Expo 58 et ils recherchent beaucoup de personnes pour travailler dans les cuisines des pavillons. Marcel Loest a vraiment vécu cela. Il est devenu cuisinier au pavillon luxembourgeois.
Je m'appelle Marcel Loest, j'ai 85 ans, donc je suis à la retraite. Voilà, j'ai fait un parcours atypique. Ça vous convient comme ça, oui? Voilà, donc j'ai commencé à la TNI, 3 ans, puis je suis passé à l'école hôtelière de Liège. Donc, et là-bas, quand j'ai eu terminé, j'ai terminé comme premier de classe, donc j'étais un bon élève. Et je n'ai rien trouvé à Liège, il n'y avait rien de disponible. Donc je suis venu sur Bruxelles et je suis arrivé à la porte de Namur. J'ai vu un restaurant, j'y suis entré et j'ai un peu parlé avec le patron. Il me dit « Écoutez, je vais voir » et puis je sors. Et il me court après et il me dit « Revenez un peu ». Et donc on m'engage. On m'engage tout de suite. Et alors, j'étais, je vais dire combien, deuxième commis à l'époque, mais j'ai gravi les échelons très rapidement. Et je suis devenu chef garde-manger hors d'ouvrier. Donc c'était une brigade. Une brigade, il y avait un chef, il y avait un saucier, il y avait un rôtisseur, un entremetier, un pâtissier, etc. Et donc moi, j'étais chef garde-manger hors d'ouvrier. Donc j'ai travaillé à Bruxelles. Et puis alors, le patron a repris la concession du pavillon luxembourgeois. Et il m'a demandé si je voulais bien venir ici au pavillon luxembourgeois, toujours avec le même grade, donc chef de parti. J'ai accepté pour votre gouverne.
En 2023, il est tout à fait normal d'aller au restaurant. Mais dans les années 50, pour le Belge moyen, ce n'était pas une occurrence quotidienne et cela pouvait être considéré comme un événement luxueux. Pourtant, cette décennie a vu une évolution progressive à cet égard. Les années 50 ont en effet marqué une période de reconstruction et de croissance économique dans de nombreuses régions d'Europe après les privations de la Seconde Guerre mondiale. Cette renaissance est accompagnée d'une prospérité croissante et d'un changement de mode de vie. Bien que la culture culinaire belge soit traditionnellement axée sur les repas familiaux à domicile, le concept de manger à l'extérieur a commencé à se populariser, notamment dans les zones urbaines et parmi les classes moyennes et supérieures. Des villes belges telles que Bruxelles, Anvers et Liège disposaient d'une variété de restaurants, bistrots et cafés qui proposaient principalement des plats belges traditionnels. Comme nous l'avons mentionné dans l'épisode précédent, la nourriture était un élément clé de l'Expo 58. Chaque pays voulait montrer le meilleur de lui-même et faire goûter sa cuisine locale aux visiteurs. Marcel travaillait dans la cuisine du pavillon luxembourgeois. Il se souvient encore très bien de ce qui était au menu.
Alors, beaucoup de monde, des gens contents, des menus, des plats traditionnels de l'époque, hein, du cocktail de crevettes, du cocktail de crabe, des tomates crevettes, des croquettes de volaille, des croquettes, des fondues, des escalopes viennoises, enfin, ce qu'on trouvait à l'époque. Non, l'exposition ne m'a pas changé, mais j'ai beaucoup appris puisque j'ai commencé à Bruxelles, j'avais 20 ans. Mais j'ai tout de suite monté les marches. Hein. Donc je suis devenu tout de suite chef de parti. Et puis à l'expo. Donc ça m'a servi dans la mesure où après, vous savez, je suis allé cuisiner en Russie, moi, hein, pour la ville de Liège, à Volgograd, donc l'ancienne Stalingrad. Je suis allé cuisiner. Là. Je suis dans les cuisines à Stuttgart. Donc, ça m'a permis, et puis j'ai fait des restaurants en Belgique, de haut niveau, où j'étais chef de cuisine. Donc, ça m'a apporté quelque chose. Parce que le patron était quelqu'un d'extraordinaire, et je me rappelle quand il m'a dit, voilà, je te demande, est-ce que tu peux, le samedi, le dimanche, laisser ton poste sur le côté, tu as quand même ton sous-chef, et venir au fourneau. Et j'ai dit oui, je vais bien essayer. Je suis allé au fourneau, et donc, finalement, je suis passé par tous les postes. Hein. La sauce, l'entremets, tout. Donc, ça m'a beaucoup apporté. Mais je dois ça à mon chef, bien sûr, le patron aussi, et tous mes collègues qui étaient déjà formidables, qui avaient envie de travailler, et qui travaillaient bien, pas bien, mais très bien. Voilà. Donc, ça m'a apporté pour la suite.
Plus de 42 millions de visiteurs ont franchi les portes de l'Expo 58. Mais derrière ces chiffres impressionnants, se cachait une armée d'employés qui veillait à ce que tout se déroule sans accroc. Dans un autre épisode, nous avons déjà parlé des hôtesses, qui étaient le visage de l'exposition. Elles accueillaient les visiteurs, faisaient des visites guidées et représentaient les pays et les entreprises avec grâce et fierté. À une époque où les professions étaient rares, ces rôles offraient des opportunités et des défis. Mais loin des projecteurs, des centaines d'autres étaient à l'œuvre. Des techniciens veillaient au bon fonctionnement des présentoirs futuristes et des merveilles mécaniques de l'expo. Les agents de police surveillaient les pavillons et assuraient un environnement sûr. Et une armée de cuisiniers et de serveurs nourrissait les affamés. Que ce soit pour nettoyer les pavillons, vendre des souvenirs ou tenir les stands de nourriture et de boissons, chaque individu jouait un rôle dans le grand tableau. Pour beaucoup, c'était une occasion de faire partie de quelque chose de grand, de révolutionnaire. Mais les journées étaient longues et les attentes élevées. Pourtant, ces travailleurs formaient une communauté soudée, unie par un objectif commun.
À l'époque, je gagnais 600 francs net par jour. 600 par jour. Et le chef avait ses fournisseurs, donc le chef donnait encore à ses chefs de partie. Donc là, ça a été travail. C'était toujours l'époque où, pour la restauration, c'était 60 heures semaine. Un jour de congé, 60 heures semaine. Donc, 6 jours sur 7. On avait convenu avec le patron de ne pas prendre de congé. Donc, pendant 6 mois, je touche du bois. Moi, j'ai pas été malade, le chef non plus, mais les autres chefs de partie bien. Donc, dans le langage culinaire et en brigade, on appelle ça un tournant. Donc, j'ai tourné dans toutes les parties, souci entre métiers, etc. Et donc, j'ai fini l'expo. Ben, donc, ça a commencé. Nous, on était un peu avant l'ouverture, mais c'est au mois de mars qu'on a commencé, et ça a duré 6 mois. Donc, un jour, on travaillait non-stop, donc de 9h du matin à 16, 17, 18h, je vais dire 18h. Et le lendemain, on travaillait de 9h du matin à 15h de l'après-midi, coupure, et on reprenait à 18h jusqu'à 22h. Et voilà, j'ai fait toute l'expo comme ça. Moi, je n'en pense que du bien, donc il y avait énormément de monde. Je parle de l'établissement, hein. Pavillon luxembourgeois, la visite notamment de l'archiduchesse, la Joséphine Charlotte. Et puis alors, au niveau du travail, c'était intense. Hein. Donc, c'était très intense. Et bon, avant le service, à 11h du matin, le chef enregistrait déjà des commandes. Et à midi, il annonçait les commandes. Et comme garde-manger ouvrier, moi j'avais la distribution pour toutes les parties, mais je devais me charger aussi des hors-d'œuvre, puisque j'étais garde-manger.
Un bon cuisinier doit goûter ses plats. On s'attendrait donc à ce que les cuisiniers mangent également dans les autres restaurants, n'est-ce pas? Eh bien, selon Marcel, ce n'était pas le cas. En effet, il avait un bon patron et pouvait manger gratuitement dans son restaurant à tout moment.
Non. On avait un patron extraordinaire. On mangeait ce qu'on voulait, que ce soit du gibier, que ce soit des huîtres. Donc, on avait un patron vraiment extraordinaire. Il avait même acheté des chaises longues pour ceux qui restaient l'après-midi, qui ne voyageaient pas dans l'expo, pour se reposer avant la reprise. Donc, ce patron était exceptionnel. On était très, très bien payés, vous rendez compte. Moi, j'avais 600 francs par jour, hein, plus ce que le chef me donnait. Donc, je tournais toujours dans les 800. Hein. J'ai essayé de faire la conversion avec l'euro, mais je n'y arrive pas. Ça paraît, enfin, je ne sais pas moi, 800 francs, ben c'est combien maintenant? Donc, allez, 20 euros. C'est 20 euros. 800 francs, c'est 20 euros. Donc, mais à l'époque, c'était beaucoup, hein.
Alors que le monde était confronté en 1958 aux tensions politiques de la guerre froide, l'Expo 58 formait une oasis d'émerveillement, de découverte et surtout de joie. C'était un endroit où les gens pouvaient momentanément oublier leurs soucis et se plonger dans la promesse d'un avenir meilleur. Les familles se promenaient main dans la main, les enfants regardaient avec des yeux écarquillés les présentations futuristes, les amoureux partageaient des moments inoubliables à la tombée de la nuit avec l'atomium en arrière-plan. La joie était palpable. Marcel le ressentait de la même manière. En tant que cuisinier, les gens le regardaient avec admiration et il était toujours traité avec respect. Selon lui, il n'y avait pas de tension ou de rivalité.
On avait le respect. Ça, je ne vais pas faire de comparaison avec maintenant, mais on avait le respect. Tout le monde avait du respect, tout le monde savait dire bonjour, merci, bonjour, bonsoir, merci, s'il vous plaît, que puis-je pour vous? Moi, je n'ai jamais assisté à des disputes, jamais. On faisait la félicité, je ne suis jamais entré, mais je n'ai jamais vu des gens qui se rebellaient en disant « oui, j'étais avant toi ». Non, je n'ai jamais vu ça.
L'Expo 58 n'était pas seulement un spectacle pour les visiteurs. Pour les milliers d'employés, c'était un tremplin, une occasion d'apprendre des compétences, de nouer des relations et de se faire une place sur la carte professionnelle. Des techniciens qui manipulaient les technologies les plus récentes aux hôtesses qui communiquaient avec les visiteurs internationaux, en passant par les jeunes architectes et designers qui travaillaient sur les pavillons innovants, l'Expo 58 était un vivier de talents. Pour beaucoup, ce fut plus qu'un emploi temporaire. C'était une école de la vie. Les expériences qu'ils ont vécues et les défis qu'ils ont rencontrés ont jeté les bases de leur future carrière. Les opportunités qui s'ouvrirent grâce à ces expériences étaient nombreuses. De nombreux employés de l'Expo 58 ont construit leur expertise sur les compétences qu'ils avaient acquises là-bas, conduisant à des carrières remarquables en Belgique et au-delà. L'Expo 58 a également eu un impact positif sur Marcel. C'est grâce à cette expérience que des portes se sont ouvertes pour lui et qu'il a eu des opportunités.
Ça m'a permis, et puis j'ai fait des restaurants en Belgique, de haut niveau, où j'étais chef de cuisine. Donc ça m'a apporté quelque chose. Parce que le patron était quelqu'un d'extraordinaire, et je me rappelle quand il m'a dit, voilà, je te demande, est-ce que tu peux, le samedi, le dimanche, laisser ton poste sur le côté, tu as quand même ton sous-chef, et venir au fourneau. Et j'ai dit oui, je vais bien essayer. Je suis allé au fourneau, et donc, finalement, je suis passé par tous les postes. Hein. La sauce, l'entremets, tout, tout, tout. Donc, ça m'a beaucoup apporté. Mais je dois ça à mon chef, bien sûr, le patron aussi, et tous mes collègues qui étaient déjà formidables, qui avaient envie de travailler et qui travaillent bien, pas bien, mais très bien. Voilà. Donc, ça m'a apporté pour la suite.
En 1958, le monde est soudainement devenu un village. À l'Expo 58, vous rencontriez des gens de l'autre côté du monde. Vous goûtiez à des plats dont vous ignoriez l'existence et vous étiez émerveillé par toutes les nouvelles choses que vous voyiez. Pour beaucoup de gens, une visite à l'exposition universelle était donc l'occasion idéale de goûter au monde entier en quelques heures. La plupart des Belges de cette époque ont visité l'exposition universelle et la famille et les connaissances de Marcel ont également fait le voyage jusqu'à Bruxelles.
Ben, moi, je dois dire que dans la région liégeoise et surtout dans ma commune, ben, oui, tout le monde est venu à l'expo. Les écoles notamment, hein, les écoles organisaient au moins une journée ici à l'expo. Hein. donc les écoles, et puis bon, les habitants aussi de ces communes. Hein, des gens qui n'avaient pas vu Bruxelles, ou bon, voilà. C'était un peu comme le, je vais dire, un peu comme le Tour de France. Hein. Au départ, si vous vous penchez un peu sur le Tour de France, ben, on tournait à l'intérieur. Et il y avait des gens qui n'étaient, des Français, hein, qui n'étaient jamais allés ni à Paris, des gens de la Côte d'Opale qui n'étaient jamais allés à la Côte d'Azur. Et ce qu'on a fait avec le Tour de France, il y avait les commentaires, on montrait tel endroit, tel monument, etc. Et ça a permis aux gens de finalement de connaître leur pays. Et je pense qu'ici, ben, l'Expo, ça a ouvert pas mal de portes aussi.
Les pavillons majestueux, les promenades imposantes et les hôtesses coquettes, c'était déjà impressionnant. Mais c'était rien en comparaison avec la star de l'Expo, l'Atomium. Il suffisait de lever les yeux pour les voir. 9 sphères brillantes qui semblaient flotter dans le ciel clair. L'Atomium a été construit en tant que pavillon principal et attraction phare pour l'exposition universelle de Bruxelles en 1958. Il doit sa forme à l'imagination de l'ingénieur belge André Waterkain. Il a en effet constaté que les atomes de fer se structurent naturellement en une structure cubique régulière. Cela lui a donné l'idée d'agrandir 165 milliards de fois un cristal élémentaire de fer composé de 9 atomes de fer, ce qui donne à l'atomium sa forme unique. Dans les années 50, le bâtiment est avant tout une icône de la foi en la prospérité et le progrès. Mais très rapidement, les Belges adoptent ce bâtiment unique et l'atomium devient le symbole national de la Belgique. Aujourd'hui, c'est toujours l'une des constructions les plus surprenantes, créatives et étonnantes au monde, attirant chaque année plus de 600 000 visiteurs. Pourtant, en 58, l'atomium n'était pas le lieu incontournable pour tout le monde.
Finalement, l'atomium, je le découvre aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que plus d'une fois, à la coupure de l'après-midi, 3 heures de temps, je me mettais dans la file. Et jamais je n'ai pu monter parce que je devais rejoindre le resto. Il était l'heure que je reprenne mon travail. Donc c'est la première fois que je mets les pieds dans l'atomium. C'est superbe, hein ?
Pour les Belges, l'Expo n'était pas seulement une occasion d'accueillir le monde, mais aussi un moment de fierté nationale. C'était un signe que, malgré les défis du passé, le pays avait un avenir prometteur devant lui. Les pavillons futuristes, les merveilles technologiques et les expositions culturelles n'étaient pas simplement des divertissements. Ils symbolisaient un monde tourné vers l'avenir, un monde qui croyait en des jours meilleurs. Et la Belgique était au cœur de cette vision. À une époque où le monde avait besoin de positivité et de connexion, l'Expo 58 offrait une plateforme d'espoir. Et même si la manifestation a fermé ses portes, son héritage perdure dans les cœurs et les esprits de tous ceux qui en ont été témoins. Pour Marcel aussi, la foire mondiale était un signe d'espoir.
C'est un signe d'espoir, c'est vrai. À l'époque, oui, mais plus maintenant. Enfin, vous voyez les gens comme moi. Hein. C'est un monde, je vous l'ai dit, je ne me reconnais plus dans ce monde-là. Voilà. Et le progrès, ce qu'on appelle le progrès, ben, quand on parle notamment de l'intelligence artificielle, pour moi, c'est un danger, ça, hein. Jusqu'où peut-on aller, hein ? Finalement, l'homme ne travaillera plus, ce sera un robot. Et donc, où il y avait 4 ou 5 agents, ben, il n'y en aura plus. Ce sera le robot. Alors, je ne sais pas comment on va s'en sortir. C'est un exemple. Hein, voilà. Ah oui, c'est important, parce qu'il y a eu quand même pas mal de visiteurs et de visiteurs étrangers. Hein. Donc, c'est quelque chose qui a été très connu. Hein.
L'Expo 58 a inspiré toute une génération, c'est certain. Chacun qui est entré en contact avec elle a été touché d'une manière ou d'une autre. Marcel en a également été profondément marqué.
Pour moi, ça a été très important. Pour moi, c'était une merveille. C'est une merveille, je n'ai jamais oublié. Hein. Et je ne suis jamais revenu. Et donc, tout à l'heure, avec le taxi, ben, on est redescendu ici de l'Atomium. Il faut faire le grand tour, hein. Faut faire, et puis remonter. Ben, je suis passé devant où était le pavillon luxembourgeois, parce que j'ai reconnu l'église là, qui était là-bas. Hein. Donc tout ça, ça m'a rafraîchi la mémoire et ça m'a fait plus grand bien. Pour moi, c'est une journée exceptionnelle. Je vous dis, c'est une journée exceptionnelle pour moi. J'en ai parlé à mes amis, ils m'ont dit, tu es un attaché, toi. Voilà, donc c'est une journée exceptionnelle. Vraiment, j'ai été très bien reçu. Et voilà, donc j'ai gardé mes photos, hein. J'ai encore des photos avec moi. Hein. Voilà, mais je vous remercie. Hein. Je vous remercie.
Merci, merci de nous avoir écoutés. Vous voulez plus d'histoire ? Écoutez alors les autres podcasts et plongez-vous dans le monde de l'Expo 58. Vous voulez en savoir plus sur l'Atomium ou l'exposition universelle ? Allez sur atomium.be pour toutes les informations ou visitez l'exposition permanente sur l'Expo 58 dans les sphères de notre monument national.